français.
PAC au pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour investir au pays vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique. Grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Guinée. Les prochaines élections, les élections qui sont censées marquer la fin de la transition, seront-elles plus crédibles que les précédentes? En tout cas, la CENI, la Commission électorale indépendante, a été supprimée au profit d'un nouvel organe, la DGE, la Direction générale des élections. Et c'est bien plus qu'un simple changement de nom, car cette nouvelle instance est directement rattachée au gouvernement. Elle est sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale. Les partis politiques dénoncent un recul de la démocratie. Le gouvernement y voit au contraire un moyen de recréer la confiance entre le peuple et l'État. Qu'en pensez-vous? Vous avez la parole ce matin. On lancera le débat dans une trentaine de minutes. 33 9 693 693 70. Vous continuez à nous appeler et vous continuez également à poster vos commentaires. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure. Mais d'abord, votre rendez-vous. Rendez-vous avec la rédaction de RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Ali, on commence avec vous. Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, et vous-même?
Je vais très bien.
Vous avez des questions sur les relations Chine-Afrique?
La Chine a annoncé supprimer les taxes sur les exportations de 53 pays d'Afrique. Pourquoi Pékin a-t-il pris une telle décision? Est-ce une manière de contrer les États-Unis?
Ah, bonne question que vous posez. C'est vrai qu'en tout cas, l'annonce a eu un fort retentissement sur le continent africain, même, il faut quand même relativiser, même si les échanges des pays africains avec Pékin ne représentent que 3% du commerce chinois. Bonjour Claire Broderst.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Correspondante permanente de RFI à Pékin, une exemption complète des droits de douane. Ali pose une bonne question. Faut-il y voir une réponse aux récentes décisions de Trump?
Alors oui, clairement, il y a un enjeu stratégique derrière cette annonce. C'est-à-dire que officiellement, Pékin affirme vouloir soutenir le développement africain et renforcer des partenariats gagnant-gagnant. Mais cela intervient au moment même où les États-Unis viennent d'annoncer de nouvelles taxes sur certains produits africains, jusqu'à 50% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium, par exemple. Donc oui, le signal est politique autant qu'économique. Alors en supprimant les droits de douane sur les importations venant de 53 pays africains, la Chine cherche aussi à se démarquer comme un partenaire fiable, constant, solidaire face à une Amérique perçue comme plus instable, plus protectionniste.
Ouais, et c'est aussi une manière pour Pékin de renforcer son influence sur le continent africain.
Oui, absolument. En fait, la Chine envoie là un message clair. Elle veut consolider son rôle de partenaire incontournable du continent africain. Et cela s'inscrit dans une stratégie de long terme. C'est-à-dire que depuis 20 ans, Pékin a massivement investi dans les infrastructures africaines, les mines, les zones industrielles, les chemins de fer. Et désormais, elle va plus loin. Elle facilite l'accès de l'Afrique à son propre marché intérieur, le plus grand du monde. Et surtout, Pékin mise sur cette relation pour peser davantage au niveau international. C'est-à-dire que dans les instances comme l'ONU, l'OMC ou encore les sommets du G77, les voies africaines sont décisives. Et en se posant comme un allié économique sans conditions politiques apparentes, contrairement à l'Occident, la Chine cherche à construire un front commun des pays du Sud qui sont plus favorables à ses intérêts. En résumé, cette suppression des taxes s'inscrit dans une vision globale où l'Afrique est au cœur de l'avenir géo-économique chinois.
Avec Claire Broderst, reste avec nous. Ali a encore une dernière question à vous poser.
On parle tout de même d'une décision qui concerne 53 pays. Quelles pourraient être les conséquences sur l'économie mondiale?
Claire Broderst à Pékin.
Alors, d'abord, pour les pays africains, c'est un vrai levier. La suppression des taxes peut rendre leurs produits plus compétitifs en Chine, qui est déjà leur premier partenaire commercial. Et des secteurs comme le textile, l'agroalimentaire, l'artisanat ou encore l'industrie légère pourraient en profiter, en particulier dans des pays comme le Kenya, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud ou encore le Maroc. Mais cette décision, vous le disiez, elle a des répercussions plus larges. Elle pourrait rééquilibrer certaines chaînes d'approvisionnement mondiales. Par exemple, si une entreprise textile d'Afrique de l'Est exporte plus vers la Chine, elle pourrait détourner ses flux des marchés européens ou américains et cela crée automatiquement une nouvelle dynamique commerciale sud-sud, moins dépendante des anciennes puissances industrielles.
Et sur le long terme, cela renforce l'idée d'un monde de plus en plus fragmenté en blocs économiques.
Eh oui, tout à fait, parce qu'en fait, cette décision, elle illustre bien ce que certains appellent la reglobalisation en bloc, c'est-à-dire un monde qui reste interconnecté, mais où les alliances commerciales et politiques se polarisent de plus en plus. Alors d'un côté, on a bien sûr les États-Unis et leurs partenaires qui renforcent leurs barrières commerciales, notamment contre la Chine, et de l'autre, on a Pékin qui cherche à tisser un réseau d'alliés économiques autour de lui, en Afrique, en Asie ou encore en Amérique latine. Et ça crée un système à deux vitesses, où les pays doivent choisir leur camp ou au moins jongler entre deux sphères d'influence. Et cela peut aussi affaiblir les règles du commerce multilatéral telles qu'elles étaient définies par l'OMC. Bref, la décision chinoise va bien au-delà de la simple baisse de taxes. Elle reflète un basculement global vers un monde plus segmenté, plus stratégique, où les décisions économiques sont aussi des actes de diplomatie.
Ali, a-t-on répondu à vos questions ?
Oh, très bien, Juan.
On remercie Cléa Broders, évidemment correspondante permanente de RFI à Pékin. Et les explications de Cléa sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio, 10h16 à Paris, 8h16 en temps universel. Simon Rosé, le chef du service environnement climat de RFI, est à mes côtés. Bonjour Simon.
Bonjour Juan.
On vous a demandé de passer car Messi Fidèle a des questions à vous poser, des questions qui concernent l'environnement. Bonjour Messi Fidèle.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Juan, à quand une émission en public à Lubumbashi ?
Ah, quand une émission en public à Lubumbashi ? Bah écoutez, le message est passé, la direction nous écoute, on verra ça. En tout cas, Simon Rosé est à mes côtés et il est prêt, lui, à vous répondre.
Je suis prêt à venir à Lubumbashi également. Pour
également, évidemment.
Exactement. Bonjour Monsieur Simon Rosé. En fait, le Maroc prévoit d'élargir sa capacité de dessalement de l'eau des mers pour faire face à la sécheresse. À ce propos, j'aimerais savoir, M. Rosé, pourquoi dit-on que cette pratique a des conséquences sur l'environnement ?
Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que cette technologie semble révolutionnaire. Il y a la sécheresse, il n'y a plus d'eau. Eh bien, si on dessalait l'eau de mer pour avoir de l'eau potable... Mais finalement,
papier,
tout ça
pas mal.
A un impact sur l'environnement
Oui, pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est très énergivore à faire. Il y a deux techniques principales pour dessaler l'eau de mer. Il y a tout simplement la distillation. On fait bouillir de l'eau de mer, elle se condense sur une paroi, le sel reste au fond et on récupère l'eau douce qui est comme ça. Mais il faut beaucoup d'énergie pour le faire, pour chauffer toute cette eau. Ou alors, il y a ce qu'on appelle la pratique de l'osmose, c'est-à-dire qu'on fait passer l'eau de mer dans une membrane qui retient le sel et on garde l'eau douce qui arrive derrière. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et sur les 20 000 unités à peu près de dessalement d'eau de mer qu'il y a dans le monde, l'énorme majorité fonctionne à partir d'énergies fossiles, donc pétrole, gaz, charbon.
Ah oui.
Et on tombe dans un peu ce paradoxe, c'est qu'on va émettre des gaz à effet de serre en le faisant, pas en petite quantité, ce qui va aggraver le problème contre lequel on essaie de s'adapter. C'est un exemple typique qu'on appelle de maladaptation dans le jargon, c'est-à-dire que la solution qu'on trouve en fait, va aggraver le problème et on va être encore plus dépendant. Ça, c'est le premier niveau, même si en l'occurrence, le Maroc certifie qu'ils feront appel à des énergies renouvelables pour le faire. Il y a même des lignes à haute tension de 1000 km qui vont être tirées entre le sud du pays et des centrales photovoltaïques et le nord où seront installées les nouvelles usines de dessalement. Mais bon, ça c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est que ça fait énormément de rejets. Tout ce sel qu'on a, il faut bien en faire quelque chose. En général, il est balancé dans l'eau, très très chargé en sel, ce qui va perturber la biodiversité locale, ce qui va avoir un effet également sur la capacité de l'océan localement à capter le carbone. Donc là encore, l'océan va moins remplir son rôle depuis carbone, ce qui aggrave en retour le réchauffement climatique et on retombe sur ce cercle vicieux que j'évoquais. Et ces rejets, ils sont également blindés de produits chimiques qu'on ajoute dans le processus, des mousses, plein de choses comme ça, qui ont des conséquences assez lourdes sur la biodiversité locale.
À vous entendre, Simon Rosé, j'ai l'impression que le dessalement de l'eau de mer, c'est finalement la fausse bonne idée.
C'est à peu près ça. Après, un pays comme le Maroc n'a pas forcément d'autres solutions. Mais ça tout dépend comment on le fait, enfin, encore une fois, et à quoi va servir cette eau in fine.
Messi Fidèle, vous avez une autre question ?
Exactement, et la dernière. Quelles autres alternatives pourraient être envisagées pour faire face au manque d'eau aujourd'hui au Maroc ?
Simon Rosé.
Bah malheureusement pas grand chose parce que quand il y a plus d'eau, quand il pleut plus. Hein. Le Maroc est en train de rentrer dans sa 7e année de sécheresse. On est sur des déficits de précipitation de -70%. Donc le Maroc construit des autoroutes de l'eau entre les régions qui en produisent au nord pour en amener au sud. Après la principale mesure qu'on peut faire, le principal levier, c'est sur la consommation d'eau. C'est tout simplement consommer moins d'eau. Le Maroc, depuis, avait lancé son grand plan vert entre 2008-2018, où il a redéfini sa politique agricole pour en faire un pays producteurs de fruits, de légumes à l'export. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un secteur agricole au Maroc qui consomme à peu près 90% de la ressource en eau pour faire des fruits qui sont cultivés dans des zones arides qui vont vendre à l'export, en plus, même pas pour la consommation locale. Donc tous les experts disent, en fait, bah, il faut une réorientation de cette stratégie agricole pour faire des choses qui sont plus adaptées au climat local, en zone semi-aride, en zone aride, à consommation locale. Donc il y a des appels en ce sens, les autorités commencent à en avoir conscience. Il y a eu des restrictions d'usage d'eau sur les cultures de pastèques, par exemple, à cause de ce stress hydrique. Mais c'est une véritable réflexion qui doit être engagée sur, bah, on a moins d'eau, donc comment on fait pour en consommer moins, assez bêtement.
Merci de votre analyse. Simon Rosé, chef du service environnement climat de RFI. Messi Fidèle, bonne journée à Lubumbashi.
Merci beaucoup, Juan.
Et à bientôt, n'hésitez pas, on est ouvert tous les jours à 8h10 temps universel. Si vous avez d'autres questions, vous nous rappelez 8h21 en temps universel. Vous nous suivez également sur la chaîne YouTube de RFI. Prosper nous envoie un petit message à l'instant. Prosper depuis Lomé au Togo. J'arrive à vous suivre via YouTube, nous dit cet auditeur. On repasse au standard. D'autres questions? Bonjour Gabriel.
Bonjour, Juan, bonjour.
Des questions sur l'une des conséquences du conflit Iran-Israël.
Oui, Juan, nous savons actuellement que le conflit Israël-Iran est à la une de l'actualité. Je souhaite comprendre pourquoi ce conflit peut avoir des répercussions sur le marché pétrolier.
Ah oui, bonne question, effectivement, surtout qu'on a vu que dans la foulée des premières frappes israéliennes, les cours du pétrole s'étaient enflammés, même si aujourd'hui tout cela semble se stabiliser. Bonjour Anna Créti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à Paris Dauphine, directrice de la chaire de l'économie du climat. Expliquez-nous le lien de cause à effet. Pourquoi les premières frappes vendredi ont provoqué une réaction immédiate des marchés?
Mais le pétrole est toujours une commodité qui, comme vous l'avez bien dit, s'enflamme dès qu'il y a des conflits et en général toute forme de tension géopolitique qui concerne notamment les pays producteurs. Dans ces cas spécifiques, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Iran est si important dans les marchés pétroliers mondiaux? Alors, ce n'est pas directement pour sa production qui, globalement, couvre à peu près 3-4% de la production mondiale, mais c'est en particulier son rôle géographique. L'Iran contrôle une petite île qui juste le détroit d'Ormuz. Donc c'est sur son territoire et cette île est en fait à la frontière avec l'Iran, l'Oman et les Émirats. Par là transite 20 à 30% de l'offre globale du pétrole mondial. Donc c'est l'endroit par lequel on achemine une très grande partie de la production de l'OPEP. Ouais.
Et
donc,
c'est pour ça qu'on appelle
l'Arabie Saoudite.
On appelle le détroit d'Ormuz la route du pétrole. 20 millions de barils de pétrole passent par ce détroit chaque jour. Et donc Téhéran a la possibilité de bloquer le passage, de verrouiller ce corridor?
Oui, parce que voilà, c'est sur son territoire. Donc, et d'ailleurs, les navires dont vous parlez, ce trafic est fortement régulé depuis les premiers conflits Iran-Irak. Donc, c'est une zone vraiment très ciblée, mais très stratégique.
Ouais. En même temps.
Et c'est sur à 1000 km de Téhéran.
En même temps, Anna Créti, je parle sous votre contrôle. C'est vrai que Téhéran brandit régulièrement la menace de fermer ce détroit, mais Téhéran n'est jamais passé à l'acte.
Non, parce qu'il y a un deuxième aspect de ces contrôles, c'est-à-dire que grâce aussi à ces commerces, l'Iran reçoit une très grande partie de ses ressources. Alors, d'une part, dans son économie, parce que 60% des revenus d'Iran viennent justement de la production de pétrole, de son PIB, et d'autre part, parce que faire passer des navires alimente aussi toute une partie de l'économie locale. C'est une menace Mais hélas, voilà, les cours du pétrole sont très sensibles aussi à ces menaces.
Merci de nous avoir éclairé, Anna Créti, professeure d'économie à Paris-Dauphine, directrice de la chaire de l'économie du climat. Gabriel, je vous souhaite une bonne journée à Yaoundé. Je regarde la chaîne YouTube de RFI, on a des messages. Moustapha qui nous écrit de Touboro, au nord du Cameroun. Charles est au Tchad, précisément à N'Djamena. Et il nous souhaite à tous, et donc à vous également, auditeurs et auditrices, une bonne émission. 10h26 à Paris. Bonjour Donald.
Bonjour Anne.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions? Vous avez des questions concernant les États-Unis?
Justement. J'ai lu sur le site RFI qu'aux États-Unis, une élue démocrate du Minnesota a été tuée. Mes questions sont la suivante. Que sait-on du suspect arrêté?
Ah, effectivement, oui.
Pourquoi les autorités qualifient cette attaque d'assassinat politiquement motivé?
Alors, cette élue démocrate du Minnesota s'appelait Melissa Ortman. Elle a été tuée, effectivement, avec son mari à leur domicile par un homme qui s'était fait passer par un policier. Et le même individu, d'ailleurs, a blessé, quelques temps après, a blessé par balle un élu du Sénat du Minnesota, lui aussi démocrate. Bonjour Jérôme Bialagaud-Froy.
Bonjour.
Docteur en civilisation américaine, spécialiste en rhétorique présidentielle. Expliquez-nous ce que l'on sait du suspect qui a été capturé après deux jours de cabale.
Oui, alors on sait que ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a un profil un peu unique dans le sens où il est déjà, c'était quelqu'un qui avait 57 ans, qui a 57 ans, qui travaillait aussi pour un conseil local et qui connaissait d'ailleurs, qui rencontrait Melissa Ortman ou John Hoffman, mais qui est quelqu'un de la droite nationaliste, et on sait notamment qu'il était un soutien de Trump et qu'il était notamment connu pour une forte opposition à l'avortement. Et il faisait partie d'un mouvement religieux conservateur assez radical, et il a des liens avec ce qu'on appelle un nouveau mouvement spirituel, en fait, qui s'appelle la nouvelle réforme apostolique. Donc c'est une croyance en lutte divine permanente contre le mal, notamment les droits LGBTQ et l'avortement.
Ouais, l'enquête le dira, mais tout semble indiquer qu'il s'agit d'un assassinat à motivation politique, puisque la police a découvert dans la voiture du suspect une sorte de manifeste avec des noms, plusieurs noms d'élus, de responsables politiques, dont d'ailleurs ceux des victimes. Est-ce que le meurtre de cet élu démocrate est symptomatique de la hausse des violences politiques aux États-Unis?
Oui, et c'est surtout que on voit les menaces augmenter de façon très importante envers tout ce qui constitue en fait un contre-pouvoir, donc un contre-pouvoir à l'exécutif et au président Trump. Ce sont les élus locaux, les juges, y compris d'ailleurs des juges à la Cour suprême. Donc les menaces augmentent et un assassinat tel que ce qui s'est passé là au niveau local dans le Minnesota a un effet, a un double effet. Il fait que toute menace maintenant doit être considérée de manière extrêmement sérieuse. Cela veut dire que nombre d'élus et de juges doivent avoir une sécurité, souvent à leurs propres frais. Et puis ça risque aussi d'avoir des effets sur la démocratie et notamment la capacité de s'exprimer sur des sujets comme par exemple l'avortement, les droits des minorités, etc., qui sont des sujets controversés aux États-Unis.
En deux mots, Jérôme Bialagaud-Froy, on pourrait en parler des heures. En tant que spécialiste en rhétorique présidentielle, est-ce que Donald Trump, je caricature un peu, mais est-ce que Donald Trump n'a pas aussi sa part de responsabilité dans cette hausse des violences politiques?
Absolument, il a libéré la parole, une parole radicalisée. Il parle de ses opposants comme des ennemis. Il parle d'ailleurs aussi des journalistes comme des ennemis du peuple. Et donc cette rhétorique au plus haut niveau, avec une saturation médiatique de cette violence des mots, a un effet. Et j'en veux pour preuve que les menaces ont augmenté de manière particulièrement visible depuis 2016. Et on voit la différence entre 2015 et puis à partir de 2017-2018, avec une augmentation parfois de 1000%.
Et pour en savoir plus, je renvoie les auditeurs à votre dernier ouvrage, Les mots, M-O-T-S, de Trump. C'est publié aux éditions Lefebvre Dalloz. Merci infiniment, Jérôme Bialagaud-Froy. Je souhaite une belle journée à Donald. Restez avec nous, RFI vous informe tout de suite.